Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Alors, hello à tous, je suis avec Frédéric qui a écrit un bouquin, qui a coécrit un livre qui s'appelle Federer, un mythe contemporain que j'ai justifié. Hop là, on va pouvoir voir très rapidement à quel point Frédéric est fan de Roger puisque son fond d'écran en témoigne. Tu vas nous donner un peu l'envers du décor d'un tel projet. Ça m'intéresse de savoir comment vous avez fait. Est-ce que tu peux commencer par nous dire... On va rentrer pied au plancher plutôt que de te présenter d'emblée. Est-ce que tu peux me dire ce qui a été la plus belle surprise en marge de ce livre? Et on enchaînera sur une deuxième question. Le côté le plus difficile pour produire, pour venir à bout d'un tel projet. Donc déjà, on va commencer par la plus belle surprise en marge du bouquin. Si tu me dis que tu as tapé avec Roger grâce au bouquin, j'en écris un direct.
J'aurais bien aimé. Déjà, merci beaucoup, Max, pour l'invitation. Je suis très content de partager et d'échanger un peu sur ce sujet. Ma plus belle surprise, j'aurais aimé pouvoir échanger quelques mots ou voir quelques balles avec Federer. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Non, je pense que la plus belle surprise de ce bouquin, c'est d'avoir, j'allais dire d'une certaine manière, avoir été au bout d'une passion à travers un livre. Et une passion qui était à deux, puisqu'il se trouve que mon co-auteur Charles Laroche est un fondu de Federer lui aussi. Et la plus belle surprise, c'est d'avoir pu constater qu'on était allé au bout d'un projet d'écriture, un bout d'un projet de livre sur un sujet de passion qui est Federer, et qu'on avait essayé, et je pense, j'espère, réussi à dire tout ce qu'on avait envie de dire sur lui. Après, la question, c'était le plus grand regret, c'est ça, ou la plus grande
pas difficulté plus grand, ouais, plus grande difficulté de venir à bout d'un tel projet. Ouais.
Je pense que c'est pas là pour le coup, c'est pas une difficulté propre au sujet en question, à savoir Federer. C'est plus une des livres disent souvent que on passe par des hauts et des bas. On passe donc pas aussi par des bas. Ça peut être plein de types de bas, ça peut être de la démotivation, ça peut être qu'on n'arrive plus à écrire, qu'on est en panne d'inspiration, qu'on se demande pourquoi on fait ça. Et là, l'avantage d'être deux, c'est qu'effectivement, on peut se soutenir, se remonter le moral, prendre un peu de distance. Voilà, je pense que la plus grande difficulté, elle est surtout inhérente à l'écriture d'un livre. Elle n'est pas du tout là liée au sujet en particulier. C'est juste arriver au bout d'un projet qui demande beaucoup de temps, beaucoup d'exigence, beaucoup d'énergie. Et puis... on espère toujours un peu secrètement qu'évidemment, il va plaire. Donc, il y a aussi à gérer cette espèce d'attente qu'il y a aussi à la sortie d'un livre en se disant tout simplement, est-ce que ce que j'ai écrit va être partagé par d'autres? Voilà, c'est une grande inconnue quand on écrit. Et voilà, donc voilà, c'est ça qui est difficile en fait, c'est d'aller au bout d'un processus qui est fait de haut et de bas.
Combien de temps a pris le processus d'écriture justement?
La partie rédactionnelle elle-même, elle a été assez courte, donc je dirais autour de 4-5 mois, sachant qu'on était deux, donc ça divise, j'allais dire, le temps de travail par deux. Mais évidemment, juste avant la phase d'écriture, il y a aussi la phase de tout simplement de réflexion, de conception, de documentation, puisqu'il faut évidemment, avant l'écriture d'un livre, se documenter, même si on connaissait déjà un certain nombre de choses, mais enfin, il faut quand même compléter par un certain nombre de lectures, de revisionnages de matchs, de vidéos, d'interviews, et la matière sur Federer est extrêmement riche, donc ça demande en fait un travail en amont de préparation qui est important pour évidemment pas dire de bêtises, et puis pour pouvoir aussi proposer des choses qu'on n'a pas forcément lues jusqu'à présent.
Je ne sais pas si ton micro touche un peu ton pull ou quoi. Parfois, il y a peut-être un...
Ça grésille un peu
Ça ne grésille pas, mais peut-être que ça rebondit parfois, je ne sais pas.
Ok, je vais essayer.
Et donc, mis bout à bout, porte à porte, avec ton pote Charles, tu vas nous dire d'où c'est parti. Mais la soirée où vous avez bu des coups et vous avez dit, tiens, on va écrire un bouquin, et la mise en rayon, il y a eu combien de temps?
Entre la naissance de l'idée et le produit final, il y a eu, je dirais, 9-10 mois à peu près.
Ah ouais, en un an, c'était plié. Vous êtes efficace quand même, les gars.
Ouais. Voilà, on est deux.
Ouais, vous êtes deux. Est-ce que justement, tu peux en profiter pour nous dire qui vous êtes, un peu plus sur votre profil, te présenter ainsi que ton co-auteur, et comment, et enchaîner sur comment est né le projet.
Ouais, bien sûr. Donc mon co-auteur Charles est un, comment dire, c'est un avocat de formation et aujourd'hui il est spécialisé dans la prise de parole en public, toutes les questions qui tournent autour de l'éloquence, de l'art oratoire. Donc c'est quelqu'un qui manie les mots avec beaucoup de brio à l'écrit comme à l'oral. Moi j'ai un parcours de communicant, j'ai travaillé beaucoup dans la communication, également dans l'écriture aussi. Je travaille dans le secteur des médias. Et on a tous les deux une passion pour le tennis depuis longtemps, et notamment une passion pour Federer depuis longtemps. Il se trouve que moi-même, étant plus jeune, j'ai beaucoup joué dans les catégories jeunes, donc Benjamin, Poussin, Minimes. J'ai un peu décroché après parce que voilà, ça demande beaucoup de temps de faire des compétitions, comme tu sais.
T'es de quelle ligue et t'es monté combien?
Donc moi je suis de la Ligue, j'ai beaucoup joué en Essonne, dans un club qui est à Massy, et je suis monté jusqu'à 5-6, voilà, ce qui est un niveau correct, sans être incroyable. Mais étant gamin, j'ai fait vraiment beaucoup, beaucoup de compètes, j'ai fait quelques championnats régionaux et même nationaux. Je pense qu'ils s'en souviennent pas, mais j'ai eu la chance d'avoir joué Paul-Henri Mathieu dans les catégories, alors je sais plus si c'était Poussin ou Benjamin, dans des championnats de France. J'ai joué aussi contre Nicolas Mahut à l'époque, donc évidemment j'avais perdu les deux fois, hein, cela va sans dire, mais j'ai toujours suivi après leur parcours, bah parce qu'ils sont de ma catégorie d'âge, hein, ils sont de l'année 82, 1982, et après j'ai toujours suivi leur carrière avec beaucoup d'attention, ils étaient déjà très forts dans les catégories jeunes, et ils ont poussé quand même jusqu'à des carrières professionnelles qui sont éminemment respectables. Et voilà, j'ai toujours gardé une petite passion attendrie pour ces deux joueurs. Alors, Paul-Henri Mathieu plutôt en simple et Nicolas Mahut plutôt en double, en tout cas par les résultats. Hein. Et c'est vrai que voilà, moi j'avais aussi une fibre tennis en tant que joueur, quoi. Ce que Charles n'a pas, je crois, en tout cas de manière beaucoup plus occasionnelle. Et donc sur la naissance du projet, bah, elle est assez simple et finalement elle rejoint presque ce que tu disais tout à l'heure. C'était pas autour d'un verre, mais c'était autour d'un repas. Donc au cours de l'été 2020, on sortait d'une période de confinement et il y allait y en avoir d'autres d'ailleurs après. Et donc, au détour d'un repas, Charles me dit, mais écoute, pourquoi on interrogeait notamment par rapport à la pertinence, c'est-à-dire que comme je te disais tout à l'heure, il y a beaucoup, beaucoup de livres qui ont été écrits sur Federer. Il y en a eu d'ailleurs entre le nôtre et aujourd'hui, il y en a eu beaucoup d'autres. C'est vrai que Federer est une source d'inspiration pour les gens qui veulent écrire. Et la question qu'on s'est posée, c'est OK pour écrire quelque chose, mais quoi? Et qu'est-ce que ça va apporter de différent, de nouveau, de neuf par rapport à ce qui a déjà été écrit sur lui? Voilà, c'était ça notre obsession, essayer de se dire, OK, c'est super d'écrire, mais il faut que ça apporte quelque chose d'autre. Et donc, assez vite, on s'est aussi, compte tenu des parcours dont j'ai parlé au départ, on s'est assez vite orienté sur un livre qui ne soit pas une biographie, puisque il y en a déjà beaucoup, qu'il y a des journalistes qui sont là pour ça et qui font ça bien mieux que nous. En revanche, on s'est dit, il manque peut-être aujourd'hui un essai qui permette de comprendre pourquoi on aime tant ce joueur. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui il soit si populaire? Qu'est-ce qui fait qu'il y ait une Federer mania qui se soit installée et renforcée au cours des années? Et donc, on a essayé finalement presque de s'interroger sur la dimension extra-tennistique de Federer. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui c'est plus qu'un joueur de tennis, voire beaucoup plus qu'un joueur de tennis. Et au cours de nos recherches, on s'est assez vite orienté sur cette notion de mythe qui nous semblait bien lui correspondre. Et donc, dans le livre, c'est ce qu'on essaie de montrer, c'est pourquoi et comment il coche toutes les cases d'une figure mythique. Donc ça, on en parle beaucoup dans le livre. La beauté, le sacré, l'universalité, voilà, ce sont des thèmes qui sont propres aux mythes et qui se retrouvent assez dans la figure de Federer. Voilà, on voulait proposer quelque chose de différent, c'est pour ça qu'on s'est orienté vers l'hypothèse d'un essai de réflexion sur qu'est-ce que c'est que cet athlète aujourd'hui, pourquoi cette popularité, qu'est-ce qu'il dit de nous, de notre rapport au sport, aux émotions, en tant que fan, parce qu'on assume complètement notre côté fan, hein, ça, dans le livre, c'est clairement dit dès le départ. Voilà, c'est une interrogation sur un héros des temps modernes, d'une certaine manière, et c'est ça qui nous a poussé à écrire ce livre.
Tu sais combien d'ouvrages ont été parus sur Roger?
Il y a un journaliste, je ne sais plus s'il est suisse ou allemand, il y a un an et demi, lui-même avait écrit un livre sur Federer et il en avait recensé une cinquantaine. Je pense qu'à l'heure où on se parle, on peut en ajouter entre 15 et 20. Depuis sa retraite, moi j'en ai vu passer plein depuis, alors soit sous forme de biographie à nouveau, soit sous forme de témoignage, soit sous forme de fiction. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de lire le livre de Laurent Chambretto sur Arnaud Federer. Arnaud Federer, c'est une fiction où un héros, enfin un personnage du quotidien, par une sorte de magie, se retrouve plongé dans la peau de Federer et il se trouve qu'il va rejouer la finale de 2019 contre Djokovic, qui nous a tant traumatisés en tant que fans de Federer. Et évidemment, l'issue de cette finale ne sera pas du tout la même que l'issue réelle de cette finale. Donc, c'est juste pour te dire que, tu vois, ça fait, j'imagine, aujourd'hui, on doit être on doit être à 60, 70 livres sur lui. Et je ne compte pas dedans tous les livres qui parlent de lui de manière indirecte. Parce que tu peux avoir un livre sur, je ne sais pas, un autre joueur, mais dans lequel on parle aussi de Federer. Là, j'ai vu qu'il y avait un livre sur le Big Three qui venait de sortir. Ça parle aussi de Federer, mais pas que. Donc, en fait, en réalité, il y a une production littéraire autour de lui qui est, honnêtement, qui est dingue.
Est-ce que tu sais s'il l'a eu entre les mains?
Alors, il lui a été envoyé et on nous a dit qu'il l'avait reçu, mais j'en sais pas plus. Et je ne sais pas du tout s'il l'a lu. Et ce que j'espère un jour, c'est qu'on puisse lui remettre en main propre. Peut-être que la retraite lui donnera un peu plus de temps et peut-être qu'un jour on pourra lui donner en main propre. En tout cas, il lui a été envoyé et on nous a dit qu'il l'avait bien reçu. Voilà.
Parce qu'il y avait un accusé de réception.
Oui, parce qu'il se trouve qu'on a dans le livre, on a eu la chance d'interroger Arnaud Butch, qui est donc qui aujourd'hui travaille chez Rolex, donc un des principaux sponsors de Federer, mais qui est aussi un proche de Federer, de Mirka et du clan Federer de manière générale, et qui nous a dit qu'il l'avait bien reçu. Voilà. Donc je me fie à sa parole et je pense qu'il l'a bien reçu. Est-ce qu'il l'a lu? Ça, c'est une autre histoire.
Arnaud, si tu nous écoutes, je t'attends de pied ferme dans ce podcast depuis maintenant des mois et des mois. Je n'endors plus la nuit. Ok. Est-ce que la retraite vous a permis de gonfler les ventes un peu? Est-ce qu'il y a eu un gros coup d'accélérateur? Comment ça s'est passé?
Oui, il y a eu un effet booster, effectivement. La retraite était un moment qui était à la fois craint et attendu depuis déjà un certain temps. Mais c'est vrai que ça a remis une lumière extrêmement forte sur l'actualité Federer. On a tous suivi, en tout cas, je pense qu'on a été... C'est vrai que ça a été un moment assez fort, assez important, évidemment, dans sa carrière de joueur. Mais c'est vrai que c'est de manière générale... Dès qu'il y a une actualité sur Federer, j'allais dire, les ventes sont corrélées sur son actualité. Et effectivement, la retraite était un point d'orgue à sa carrière, qui fait que évidemment, on a été amené à reparler un peu du livre, mais pas que du nôtre d'ailleurs, hein, d'autres aussi, et à être sollicité, voilà, pour quelques interventions médias, et dire aussi ce que ça nous faisait en tant que fans de le voir partir, puisque il est dans notre quotidien depuis maintenant. Plus de 20 ans, et donc c'est aussi un personnage qui sort de nos vies d'une certaine manière, ou en tout cas qui jouera un rôle, mais sûrement autre. Et donc c'était aussi l'occasion de saluer cette grande carrière et de dire à quel point on allait le regretter, évidemment.
Vous aviez contacté Thomas Soto, qui avait sorti un livre sur Roger, pour lui dire « Coucou, ce que tu as fait, qu'est-ce que tu peux nous conseiller ?» Je ne sais pas, vous aviez échangé avant de publier le vôtre ?
Oui, on a échangé, on a même essayé de l'interviewer. Ouais. Mais il était très pris à ce moment-là, et puis il nous a dit qu'il avait tout dit dans son livre. Donc voilà, tout ce qu'il avait dit sur Federer était dans son livre qu'on a évidemment lu. On a échangé sur quelques sujets d'actualité liés à Federer, mais après on l'a pas formellement interviewé dans le cadre du livre. Mais on avait déjà d'une certaine manière tout ce qu'il fallait dans le sien.
D'accord. Alors moi j'aimerais revenir sur la rédaction pure et puis le style autour de ça. Comme tu disais, vous avez construit donc un récit autour du mythe, d'un mythe contemporain. C'est un vrai parti pris parce que quand on est habitué à de la lecture dans le tennis, hein, tu vois, je me suis pris de passion pour la biographie d'Agassi comme trois quarts des neuf dixièmes des fans de tennis. Ouais. Je me souviens m'être plongé aussi dans la biographie de Serena, celle de Rafa qui m'avait vraiment appris à connaître le personnage. Récemment, j'ai apprécié lire le livre de Gasquet.
Oui, tout à fait. Excellent.
J'ai interviewé Gilles Simon, mais j'avais pas lu son livre avant, donc c'était un peu délicat. Bref, Le vôtre, c'est un vrai parti pris de on ouvre considérablement le spectre.
Tout à fait.
On a un style littéraire bien à nous, où on prend un peu de hauteur, on va chercher des références beaucoup plus loin que la simple balle jaune et la période actuelle. On va faire d'une pierre deux coups. C'est comment vous vous êtes organisé pour vous répartir les tâches d'écriture et comment est reçu ce parti pris de style littéraire, en fait, qui, moi, m'a vachement. Pour moi, c'était un exercice de dire, OK, on y va, on va pas parler que de tennis, les gars, on va s'ouvrir les chakras sur la culture, hein, de manière beaucoup plus globale, quoi.
Alors, sur la répartition du travail, effectivement, il y a beaucoup d'avantages à travailler à deux, mais il y a un inconvénient, c'est qu'il ne faut pas qu'on ait l'impression qu'il y ait deux livres dans un livre. Il ne faut pas qu'on ai l'impression qu'il y ait deux styles au sein du même livre.
Ça,
Donc,
c'est réussi en tout cas.
ça, ben, merci beaucoup. Et c'est vrai que ce qu'on a fait pour être sûr d'être sur la même longueur d'onde en termes d'écriture, c'est qu'on a rédigé un chapitre entier à deux, pour être sûr qu'on était d'accord sur la structure, les paragraphes, les sous-titres, les références, etc. Et ensuite, une fois qu'on a fait, j'allais dire, ce chapitre test, on s'est réparti les chapitres selon un peu nos affinités. Tu vois, par exemple, il y a un chapitre sur la marque Federer, donc tout ce qui touche à sa communication, ce qu'il véhicule comme valeur, comme dimension esthétique, comme récit. Ça, c'est plutôt moi qui l'ai pris parce que, comme je te disais, moi j'ai plutôt un parcours de communicant, donc c'était des problématiques qui me parlaient plus. Et puis à l'inverse, Charles a pu choisir d'autres thématiques qui lui étaient proches. Donc voilà, on est parti d'un chapitre en commun et ensuite on s'est réparti le travail selon nos affinités. Et ensuite, à la toute fin, on s'est évidemment relu pour pouvoir tout relisser et être sûr que de la première page à la dernière, on ait quelque chose qui soit homogène. Voilà, on voulait surtout pas qu'on se dise, ah toi, c'est toi qui as écrit ce passage-là et c'est Charles qui a écrit l'autre. Donc, je pense que de ce point de vue-là, ben, merci de me le confirmer, je pense qu'on a à peu près réussi à tenir cette espèce de cohérence. Et puis ensuite, sur le parti pris éditorial ou sur l'angle, écoute, nous, on s'était donné aussi comme objectif, par cet angle-là, d'aller aussi chercher des publics au-delà du tennis. Finalement, il y a évidemment les personnes qui aiment Federer et qui aiment le tennis, j'espère en tout cas, peuvent trouver un plaisir, entre guillemets, à le lire. Mais on s'est dit, on aimerait aussi aller toucher des publics qui sont plus éloignés, des publics qui ne sont pas forcément ni fans de tennis, ni fans de Federer, mais qui, par l'angle, pourraient être intrigués. Intrigués en se disant, tiens, finalement, c'est une réflexion sur un athlète de haut niveau, une superstar contemporaine. Et donc, essayer d'aller titiller un peu la curiosité de personnes qui sont a priori pas directement intéressées par le tennis. Et pour avoir un peu discuté avec des proches et des personnes qui l'ont lu, je ne sais pas si on est complètement parvenu, mais je pense quand même qu'on a pu intéresser ouais, des personnes qui n'étaient pas a priori dans la cible tennis au départ. Et c'était presque c'était un choix, hein, c'était un choix de se dire. Ben, essayons de viser plus large. Effectivement, le fait d'avoir réfléchi à des passerelles entre le milieu du sport, du tennis en l'occurrence, et le milieu des arts, parce que y a évidemment Federer est un artiste, donc il nous a semblé assez logique d'aller piocher des références dans le milieu des arts, la littérature, la peinture, la philosophie, etc. Il y en a un certain nombre dans le livre, et on s'est dit que Federer se prêtait particulièrement bien à cet exercice de passerelle entre le milieu sportif et le milieu artistique. Voilà. Et donc, par ce choix-là, on s'est dit, bah, on espère qu'on arrivera aussi à aller toucher d'autres publics qui, spontanément, n'iraient pas, vers ce type d'ouvrage. Est-ce qu'on y est complètement parvenu? Je ne sais pas. En tout cas, je pense oui, je pense qu'en tout cas, il y a certaines personnes qui ont pu être intriguées par le titre, la couverture aussi. Je ne sais pas si on y reviendra, mais on a choisi une couverture en noir et blanc, quelque chose qui finalement devait correspondre. Merci. Qui devait correspondre aussi au personnage avec une photo qui est assez emblématique du style Federer, un style aérien sur un revers à une main qui était aussi sa marque de fabrique. Alors avec quelques autres, mais quand même qui a été aussi une de ses marques de fabrique. Et donc on a aussi beaucoup travaillé cette couverture pour que dans un rayon ou en librairie, on puisse se dire, tiens, c'est un livre de sport, mais il est en noir et blanc, il n'y a pas de couleur. On a voulu jouer cette carte de laisser à fond, y compris, tu vois, dans les codes visuels. Voilà. Et donc, écoute, voilà, si on a pu y arriver un petit peu, bah, tant mieux.
Comment vous avez fait pour convaincre une maison d'édition, à savoir Solar Edition? Je remonte juste la couve parce que pour ceux qui regardent sur YouTube, l'image apparaît quand c'est Bibi qui parle. Alors comment la photo est magnifique d'ailleurs, hein, entre nous. Comment vous avez fait pour convaincre une maison d'édition? Je crois que c'est un vrai challenge.
Ouais.
À combien de tirages vous avez d'exemplaires vous avez édité? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les chiffres, l'envers du décor?
Ouais. Alors déjà, on a approché plusieurs maisons d'édition. Il y en a qui n'ont jamais répondu. Il y en a certaines qui ont répondu en déclinant poliment. Et puis il y en a, on va dire, allez, deux, trois qui se sont dites intéressées sur le principe. Donc ces deux, trois-là, on a été les démarcher en essayant de préciser le projet et surtout en essayant de montrer, comme je te disais au début, en quoi c'était pas juste une publication supplémentaire sur Fédéraire, mais avec un vrai parti pris éditorial différent. Voilà, c'était ça notre approche en disant, si vous nous publiez, vous publierez quelque chose qu'on pense ne pas avoir vu sur le marché aujourd'hui. Voilà. Peut-être qu'il en existe dans d'autres pays. J'ai pas toute la littérature de Fédéraire dans le monde en tête. Il y a peut-être des sujets, il y a peut-être des pays dans lesquels cet angle-là aussi a été retenu. En tout cas, dans les principaux, on va dire, ou ceux qu'on a en tête, on n'en avait pas vu. Et donc, bah après, j'allais dire, ça s'est relativement affiné. Là, il se trouve que Solar s'est déclaré très vite intéressé. Il se trouve que a été aussi convaincu par l'angle. La seule chose qui a été compliquée à gérer, c'est le timing, puisque lorsque Solar nous donne son accord fin 2020, ils nous disent la condition, c'est que il faut que ce soit sorti pour Roland-Garros 2021. Voilà. Et donc Roland-Garros 2021, bah, pas besoin de te faire un dessin, c'est donc 5-6 mois après, ce qui veut donc dire que entre bah, l'écriture du manuscrit, la relecture, l'impression, bah, ça veut dire que tu as plus que quelques mois en réalité de rédaction. Mais bon, après, on s'est dit avec Charles que c'était dans nos cordes et que si c'était le prix à payer, on allait le faire. Mais donc
Challenge.
après, challenge, voilà exactement. Et là, le fait d'être deux aide beaucoup, je reviens à ça parce que c'est important. Et donc, Solar a cru dans le projet et puis Solar est une très belle maison de sport. C'est vrai qu'ils éditent beaucoup de livres sur le sport en général. Là, c'était un livre qui était un peu différent par rapport à leur, j'allais dire, aux propositions habituelles. Solar est vraiment en général sur des livres de sport pur et dur. Là, on sort, comme je t'expliquais, on sortait un peu d'une proposition sport pur et dur. Mais voilà, ils nous ont fait confiance et c'est génial. On a pu mener le projet avec eux. Ils ont été d'une grande aide dans l'accompagnement, dans les suggestions aussi d'amélioration, puisque c'est un travail qui se fait aussi en concertation avec l'éditeur. Hein. Il n'y a pas que les auteurs, c'est un travail collectif. Et donc voilà, Solar a cru dans ce projet et donc Solar l'a édité. Voilà,
Combien
comme quoi je
d'exemplaires?
l'ai pu. Pardon?
Combien d'exemplaires?
Donc on a
Attends, ça coupe. Je sais pas si tu m'entends.
exemplaires.
Ouais, attends, ça a coupé.
Pardon, on s'était fixé entre nous d'arriver à 5 000 exemplaires vendus. Et donc là, on doit être pas très loin. Au dernier recensement, on était à 4 500. Donc peut-être que Noël 2022 nous aidera, nous permettra d'arriver à passer la barre des 5 000.
Et Tennis Légende, et ça mérite un Bamos là. Allez. Ok, très bien. Et c'était quoi le kiff ultime derrière ça, de vous installer comme, je sais pas, des experts, de juste sortir un livre, ou alors vous aviez déjà écrit des bouquins, donc c'était pas forcément ça le kiff ultime. C'était quoi pour vous le but final?
Je pense qu'on n'avait pas le même, enfin, on n'avait pas forcément le même but avec Charles. Charles a déjà écrit des livres, alors pas du tout sur le tennis, pas du tout sur Federer. Il a écrit des livres sur la prise de parole en public, sur des thèmes en tout cas qui lui sont plus proches d'un point de vue professionnel. Moi, c'était la première fois. Je pense que le kiff derrière ça, c'est d'écrire sur une passion. Voilà, je pense que Charles comme moi, on est des passionnés de Federer et on s'est retrouvés autour de cette passion et on s'est dit, mais pourquoi on n'écrirait pas quelque chose? Voilà, ça revient à ce qu'on disait sur le début de l'aventure. Et c'est génial de pouvoir écrire sur une passion. Parce que on peut y mettre les mots qu'on souhaite. Il y a une grande liberté aussi à pouvoir écrire. Et c'est vrai que nous, comme on a assumé complètement le côté fan, c'est vrai que parfois, je ne sais pas si tu l'as noté, mais bon, il y a certaines formules, on s'enflamme un peu. Mais parce que finalement, on ne trahit rien en disant ça. C'est aussi ce qu'on a éprouvé en le regardant jouer, parfois même en le regardant jouer dans un stade, quand on a eu la chance de le faire. Donc on voulait mettre des mots sur cette passion. Et on pensait qu'on était beaucoup, beaucoup à éprouver les mêmes choses. et que, à travers les mots, on arriverait peut-être à faire passer ce même sentiment. Qu'est-ce qu'on a éprouvé? Qu'est-ce qu'on éprouve? Ça me fait un peu de peine de le dire au passé, mais qu'est-ce qu'on a éprouvé en regardant jouer Federer? Voilà, c'était ça le plaisir, c'est d'arriver à mettre des mots sur cette passion. Et voilà, en tout cas, on a essayé. Et je pense qu'il y a beaucoup de fans de Federer qui se retrouvent dans tout ou partie de ce qu'on a écrit.
J'ai un ou deux passages que j'ai gardés. Je vais lire, tu me diras si c'est toi ou de mémoire, c'est toi ou Charles qui les a écrits. Dire que Federer est né avec du talent et des prédispositions pour le tennis est une évidence. Faire reposer son succès sur ses seuls acquis est un contresens. Les gens voient cet athlète gracieux qui flotte et pensent que cela arrive tout seul. Mais il a fait un travail incroyable tout au long de sa vie, rappelé récemment Paul Anacon, son entraîneur entre 2010 et 2013. La réussite du Suisse n'est pas tombée du ciel. Elle est le fruit de milliers d'heures de travail acharné passées sur le court, dans la salle de muscu ou sur les pistes d'athlètes. Le dernier roman de l'écrivain suisse Olivier Chapuis, Balneuve, aborde cette question fondamentale entre inné et acquis. Et Roger Federer, quelle est sa part d'inné et d'acquis dans sa réussite, dans cette conviction, dans cette force qui le pousse à s'entraîner comme un damné et à vaincre jusqu'à plus soif pour la gloire et la prospérité? Le scientifique et industriel américain Thomas Edison avait coutume de dire que le génie, c'est 1% d'inspiration et 99% de transpiration. Quand même, quand bien même cette jauge serait remontée à 10 ou 20% dans le cas de Federer, l'essentiel resterait à développer et à conquérir. On ne naît pas champion, on le devient.
Ouais.
Qui des deux est le coupable?
Eh bien, tu vois, c'est que ça a tellement bien marché que je ne sais plus qui a écrit ce passage. C'est bon signe. Honnêtement, je serais incapable de te dire qui a écrit ce paragraphe en particulier.
Ok. Alors, attends, j'en avais un autre. Le piège de Thucydide. Ce concept entend montrer que l'ascension d'un perturbateur tenté par l'hubris face à un acteur établi menacé de paranoïa est un schéma à la source de nombreux conflits dans l'histoire. Vous mettrez replay, hein, pour ceux pour qui ça va trop vite, de la guerre du Péloponnèse entre Sparte et Athènes. Ce piège de Thucydide a souvent été convoqué pour proposer une grille de lecture aux grandes rivalités du sport. Ah non, 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 là je l'ai corné juste pour la référence du film que j'avais pas regardé entre l'ami Borg et McEnroe.
Ah ok.
Je passe ce passage, le couperet peut-être on verra ou pas. Certains pensent que Roger Federer est la preuve de l'existence de Dieu. D'autres, comme le professeur de philosophie Raphaël Eindhoven, estiment à l'inverse, et non sans malice, que Dieu est la preuve de l'existence de Federer. On ne saurait dire si Federer est divin au sens littéral, mais il y a quelque chose de surhumain, d'ahumain chez lui. En jouant encore au plus haut niveau à presque 40 ans et en repoussant donc les limites du temps, il défie symboliquement la finitude et la mort auxquelles les religions tentent de donner un sens. Avec Federer, la vie d'après n'est plus une promesse mais une réalité, comme s'il nous disait « l'au-delà est déjà là ». Est-il possible de croire en Dieu et en Roger Federer? Vous poussez encore un peu le curseur. Tu sais ce passage ou pas, ou toujours pas?
Je pense que c'est Charles, ce passage.
Il y a une petite référence que j'ai bien aimée, c'est la revanche du temps long, lorsque vous vous rappelez que lorsque Roger a débuté sur le circuit le 7 juillet 98, la France est sur le point d'être sacrée championne du monde et Kylian Mbappé n'est pas encore né. Ça fait du bien de se le figurer. Et par ailleurs, voilà, quand vous dites la revanche du temps long, depuis 98, Federer a connu 5 présidents américains, 4 présidents français et 3 papes. Il a survolé près d'un quart de siècle en incarnant une forme de stabilité dans un monde en bouleversement permanent. À l'heure où la rapidité des échanges, des connexions et le court terme des chaînes d'infos en continu des réseaux sociaux sont érigés en idoles, la longévité du Suisse tient autant du mystère que de la prouesse. La journaliste Anne Lenoir, spécialiste des séries, vous comparez à Angela Merkel, qui est là depuis toujours.
Ouais. Alors, c'est parti finalement, elle aussi.
Oui, finalement, oui.
Finalement, et je crois qu'on fait aussi une comparaison avec la reine qui aussi elle est partie, alors elle malheureusement pas en décédant, mais en tout cas, oui, on a fait une analogie avec des grandes figures historiques qui brillaient par leur longévité. Comment est-ce qu'on dure dans un monde où tout est jetable? Voilà, il y avait quelque chose de ça dans notre réflexion, et Federer est quand même un modèle de longévité parce qu'il a quand même joué 25 ans sur le circuit pro. Qu'il a joué plus de 1500 matchs, qu'il n'a jamais abandonné en cours de partie, c'est quand même un modèle de résistance physique exceptionnel. exceptionnelle. Et on voit d'ailleurs que ça c'est une tendance qui commence un peu à se généraliser. On voit qu'il y a des athlètes maintenant qui repoussent aussi les limites de l'âge. On le voit au tennis, hein, Nadal, Djokovic sont toujours là, alors que ben, bien malin, celui qui aurait pu dire que Nadal serait encore en activité à 36 ans avec toutes les blessures qu'on lui a connues. Mais c'est aussi le cas dans d'autres sports, hein. On voit Zlatan au foot, Ronaldo, Brady dans football américain. C'est des personnes qui sont proches de la quarantaine ou qui l'ont dépassé. Et Federer a été un de ceux-là. Il a peut-être été même un précurseur du fait que les limites du temps ont été repoussées. Mais pour ça demande de penser sa carrière dans sa globalité, de se donner tous les moyens physiques, etc. C'est quelque chose qui se prépare de très tôt en réalité.
Et quelques chiffres aussi pour les aficionados qui sont encore là et qui l'ont oublié. En 1500 matchs professionnels, il n'a jamais abandonné et déclaré forfait que 3 fois. Pourtant, on l'a vu à de nombreuses reprises mal en point à cause de son dos.
Ouais.
2003 à Wim contre Lopez, 2016 à Wim toujours contre Raonic et 2017 à l'US contre Del Potro, sans oublier la mononucléose qu'il a contractée en 2008 et l'a affaibli pendant de longues semaines. L'endurance physique de Roger a rejailli sur la pérennité ses performances sportives. Entre 2000 et 2016, il a participé à tous les tournois du Grand Chelem, soit 69 au total. De Wimbledon en 2004 à Roland en 2013, il a disputé 36 quarts de finale consécutifs. De Wimbledon 2005 à l'Open d'Australie 2008, il a joué 10 finales de Grand Chelem sans interruption.
Ouais,
Dans
ça
leur
laisse rêveur.
podcast, c'est incroyable. De relire ça, ça remet l'église au centre du village, comme on dit. Dans leur podcast, Game Federer, les journalistes sportifs américains Brian Clark et Vic Singh rappellent que le Suisse a enchaîné 24 finales victorieuses entre 2003 et 2005. On dirait presque ton palmarès, Fred. C'est un bonheur. Ces statistiques ébouriffiantes font partie des records que Federer pourrait conserver encore longtemps. À quoi sert encore une garantie quand le produit s'appelle RF? Yes! C'est
Ouais,
bon ça.
ça laisse pantois. Voilà, je pense que ces stats disent tout de l'endurance, du modèle d'endurance qui a été Federer. Et voilà, je pense qu'il n'y a rien à ajouter. C'est, comme on le disait, c'est un quart de siècle d'excellence au plus haut niveau. Voilà. Et vas-y, je t'en prie.
Et tes teams, quel joueur aujourd'hui pour la relève?
Alors
Sur
moi
la
j'ai
jeunesse, hein.
sur la jeunesse, moi j'ai toujours eu un fait pour les joueurs qui avaient un verre à une main. Donc j'aime bien Tsitsipas pour ça. Alors, je sais pas s'il est pas dans la catégorie des plus jeunes, mais enfin il est quand même, je pense, considéré encore comme un jeune joueur. Et après, si on sort des joueurs à revers à une main, bah, sans originalité, Alcaraz, Rune, que j'ai eu l'occasion de découvrir pour la première fois à la Bercy il y a quelques jours, j'ai été épaté vraiment épaté par son niveau de jeu.
Tu l'avais pas vu à Roland cette année?
Non, à Roland, oui, j'y suis allé, mais je l'ai pas, j'ai pas vu Rune. J'ai vu d'autres joueurs, mais je l'avais suivi comme ça à la télé, mais d'un œil un peu distrait. Et là, j'ai eu l'occasion de le voir pratiquement sur tout un match, bah, contre. Surtout pour un joueur qu'on disait un peu immature, un peu bébé. Je trouve que là, enfin, en tout cas sur le match que j'ai vu, et d'ailleurs la fin du tournoi à Bercy, voilà, lui a donné raison. J'ai trouvé au contraire qu'il était d'une incroyable maturité. En fait, moi, c'est ça qui m'a frappé sur son match contre Alcaraz, c'est de voir à quel point il maîtrisait les événements, y compris d'un point de vue émotionnel, en fait. Et je m'attendais pas du tout ça de la part d'un joueur si jeune, et surtout qu'on n'avait pas décrit de cette manière-là. Voilà, donc, ouais, bluffé.
Et Team Revers à une main, t'es plus Tsitsipas ou Shapovalov?
Ah, oh, les deux. C'est vrai qu'un revers à une main sur un gaucher, c'est beau aussi.
Incroyable, ouais.
Il n'y en a pas tant que ça. Ouais, c'est vrai. Ouais, non, c'est un bon point. Shapovalov, ouais, très très chouette aussi. Mais Tsitsipas, ouais, il y a un côté très propre, très pur aussi dans le jeu. D'ailleurs, on en a fait parfois un des héritiers un peu spirituels de Federer. Alors, c'est une casquette qui est lourde à porter, hein. Il y a eu Dimitrov aussi en son temps, enfin maintenant qui est plus si jeune que ça. Et c'est vrai que ouais, c'est un bel athlète. Il est beau avoir joué. Ouais, un petit faible pour les verres à une main, mais surtout qu'il n'y en a pas trop, quoi. Donc il n'y en a pas beaucoup, en tout cas au top niveau. Et c'est vrai que là, dans le top 10, top 20 aujourd'hui, tu t'en as voir quoi, un ou deux, pas plus. Donc ça reste une denrée rare, les revers à une main. Donc c'est vrai que c'est d'autant plus appréciable d'en voir encore quelques-uns.
Quelle est la porte la plus improbable qui s'est ouverte grâce à ce livre? Ou la retombée, j'en sais rien, un passage médiatique quelque part, ou un truc improbable que tu as vécu grâce à ça?
Improbable. Écoute, ouais, les passages ou les interventions médias sont très chouettes. C'est vrai qu'on en a eu, quand il y a eu des actualités fédéraires, donc on parlait de la retraite tout à l'heure, il y en a eu d'autres. On a pu être sollicité. C'est toujours sympa d'aller sur un plateau radio ou télé
Chez quel
pour.
média, tu peux nous dire?
Écoute, on a été chez Europe 1, on a été chez CNews, on a été sur TV5 Monde, on a été aussi dans la presse. Presse nationale, presse quotidienne aussi, Ouest France, on a été dans GQ. D'ailleurs, tu vois, c'est assez amusant parce que ce sont des médias qui ne sont pas estampillés sport. C'est des médias plutôt généralistes, ce qui prouve bien que finalement, notre livre ne touchait pas uniquement une cible sport, mais un peu plus large. C'est un peu la confirmation, entre guillemets, que finalement, ce n'était pas qu'un livre de tennis. Donc non, on a eu la chance d'avoir un peu de relais. Après, ça reste modeste, hein, on n'a pas fait de JT de 20 heures. Hein. Mais en tout cas, c'est toujours amusant, je trouve, de venir expliquer, comme on le fait là, nous aussi, c'est toujours amusant et agréable de venir expliquer pourquoi, en fait. Pourquoi on a fait ça, quelle était la démarche derrière. Et encore une fois, je pense qu'il y a tellement de fans de Federer en France et partout dans le monde que bah, c'est une grande communauté, en fait. C'est une sorte de grande famille, je pense, qui est maintenant un peu en deuil depuis 2 mois. Mais en tout cas, c'est. Je pense qu'on a vécu et partagé un peu les mêmes choses. Et donc, voilà, le livre donne l'occasion un peu de se remémorer tout ça.
Et la pire nuit blanche ou le souvenir le plus douloureux en lien au livre, le moment où vous avez vraiment galéré, et
Ouais.
donc en marge de ça, les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui se lance dans un projet d'écriture?
Oh, c'est arrivé quelques fois. Hein. C'est vrai qu'on travaillait souvent avec Charles, on travaillait souvent la nuit. Et ça peut arriver que, enfin, moi, ça m'est arrivé en tout cas quelques fois où. T'es en panne sèche d'inspiration, quoi. Il n'y a plus rien qui sort, il n'y a plus rien qui vient. Et ça va même au-delà, c'est-à-dire que tu en viens à te poser des questions, tu vois, du style, mais pourquoi je fais ça, en fait? Pourquoi je m'inflige tout ça? Pourquoi est-ce que je me
Ouais.
lance dans quelque chose que finalement personne n'a demandé? Pourquoi est-ce que je m'inflige, entre guillemets, tout ça? Ça, c'est un. Ouais, ça a pu arriver plusieurs fois. Et le fait d'avoir quelqu'un à qui en parler te permet de dédramatiser et te permet aussi parfois de prendre un peu de recul. Tu vois, c'est arrivé. Charles aussi, d'ailleurs, ça lui est arrivé. Je sais que par exemple pendant quelques jours il a tout laissé de côté. Voilà,
Ah
tu
ouais,
vois.
besoin de
Ça voulait
couper, ouais.
besoin de couper pendant 3, 4, 5 jours, une
Et
semaine.
Roger aura la casquette, hein, c'est bon,
Bah oui,
tais-toi.
parce que c'est ça. Non, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'après ça commence à envahir ton quotidien vraiment, c'est-à-dire que dès que tu as un moment de libre, tu penses à ça, tu prends le métro, tu penses à ça, tu prends une douche, tu penses à ça. En fait, ça devient une sorte d'obsession parce que tu es toujours dans une logique perpétuelle de comment. Oh tiens, il ne faut pas que j'oublie ça, ou au contraire, tiens, ça c'est un angle intéressant, il ne faut pas que je l'oublie. Donc tu es un peu sur le qui-vive et tu es toujours en train de te dire, il ne faut pas qu'il y ait de temps mort, tout moment où je fais un peu autre chose doit être un peu productif et je dois continuer à y réfléchir pour continuer à alimenter la machine. Voilà. Et ça, c'est vrai que parfois le fait de couper, de stopper un peu, de laisser quelques jours, honnêtement, c'est très bénéfique. Parce que ça te permet de mettre le sujet un peu à distance. De reprendre un peu tes esprits. Et souvent, d'ailleurs, tu reviens un peu meilleur parce que justement, cette prise de recul t'a permis de voir les choses de manière beaucoup plus claire. Quand tu écris tout le temps, en fait, après, tu vois plus. Tu es dans un brouillard et même parfois, tu en viens à te demander, mais qu'est-ce que tu voulais dire en fait au départ? Tu vois, tu en viens presque à parfois te demander ça. Et donc, il y a des moments qui sont bénéfiques et qui sont nécessaires et qui consistent juste à se dire, OK, je me décolle un peu de ça pendant quelques temps et puis ça reviendra naturellement parce qu'au bout d'un moment, les idées redeviennent claires. Voilà.
Et votre routine d'écriture, c'était quoi?
Notre outil d'écriture, c'était tout basiquement, on a pris notre ordi, on a ouvert un document Word et puis on a commencé comme ça. Voilà, très très simplement, vraiment sans aucun. En plus, nous, on n'avait pas de problématique de photos, d'illustrations, etc. Donc, tu vois, nous, c'est 180 pages de texte pur. Donc, on n'avait pas à se soucier, tu vois, de mise en page un peu compliquée avec des archives, des photos, des machins. C'était finalement assez simple, c'était juste de la rédaction pure et dure, tu vois.
Et
Donc, on n'avait pas besoin de plus.
vous avez élaboré vos parties d'abord et après vous grattiez chacun de vos côtés et vous retrouviez une fois
Ouais,
par semaine pour faire le point ou ça se
tout à
répartissait
fait.
différemment? Oh, c'était ça,
Tout
ouais.
à fait. Ouais, on se revoyait tous les 15 jours, en fait, parce qu'on s'était donné
D'accord.
ça comme échéance. Et donc, on avançait sur un chapitre, et puis on se faisait un point croisé sur nos chapitres, et puis hop, on envoyait l'éditeur, puis on passait à ceux d'après, et comme ça, on enchaînait, tu vois, tous les 15 jours.
Est-ce que
pendant
vous
3-4
alliez
ans.
le plaisir, enfin le travail à l'agréable avec une bonne bouteille tous les 15 jours, ou c'était focus, travail, 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 mon
Non,
Dieu?
c'était assez studieux et aussi parce que on a connu une autre période de confinement à ce moment-là et donc en fait on était aussi en partie bloqué chez nous. Donc finalement c'était assez c'était une ambiance assez studieuse, ce qui n'empêchait pas que de s'appeler régulièrement évidemment, mais ouais c'était assez focus. Et puis comme les délais étaient courts, on pouvait pas se permettre de déborder trop. Tu vois, il fallait quand même être assez rigoureux sur la production parce que c'est vrai que tu as l'impression que le calendrier tourne vite. Voilà, et que l'échéance se rapproche vite. Donc, il fallait quand même produire. Donc,
Et le jour où tu le vois en rayon, c'est quoi l'émotion?
ah, c'est
La
chouette.
tienne, la
C'est
tienne en tout
chouette.
cas.
Ouais, c'est chouette. Déjà, tu te dis comment il est positionné par rapport aux autres. Est-ce qu'il est mis en avant? Est-ce qu'il est juste dans un rayon classique? Tu guettes les personnes qui éventuellement vont venir un peu regarder la couve ou, tu vois, t'es un peu à. T'es curieux aussi de savoir comment les autres vont réagir, mais non, c'est chouette à voir. Et puis on a eu la chance de faire deux dédicaces en librairie. Ça, c'est très
Ouais.
chouette aussi, parce que ça te permet aussi d'échanger avec des gens qui l'ont lu ou qui veulent le lire. Et donc, c'est aussi prétexte à rencontrer des gens parfois assez improbables. Et puis aussi de se remémorer des souvenirs. Enfin, c'est aussi ça. Federer, c'est une machine à souvenirs. Je veux dire, on a tous une ou des anecdotes de matchs à raconter sur lui. Alors, parfois les mêmes, et puis parfois pas les mêmes. Et c'est ça qui est sympa, c'est que voilà, il y a des fois, on a pu échanger avec des gens qui avaient lu, qui voulaient lire. C'est assez chouette comme expérience. Ouais.
C'était un projet one shot comme ça dans le tennis, ou il en appellera d'autres?
À court terme, il n'en appellera pas d'autres. Et s'il en appelle un autre un jour, pas certain que ce soit dans le tennis. Là, c'était vraiment j'allais dire un one shot sur une passion commune qui est née un peu comme ça. Donc, honnêtement, aucune idée pour l'avenir, mais c'est pas du tout certain que ce soit à nouveau sur le tennis, si jamais ça
Ça
doit
marche.
voir le jour.
Bon, en tout cas, bravo pour cet accomplissement,
Merci, merci,
ce
merci.
projet que vous avez mené à bien. J'encourage les fans, évidemment, à se le procurer, voilà, et aux autres, bah, s'ouvrir les chakras comme j'ai pu le faire. J'ai appris plein de trucs. Alors, moi, très honnêtement, un peu déroutant, sur la lecture pure de, je t'avoue, j'aime le terrain, j'aime sentir, l'odeur de la balle, j'aime, tu vois, ce qu'on a vécu tous les deux quand on était un peu plus jeunes, et voilà. Mais c'est une approche complémentaire et qui est néanmoins intéressante, donc à découvrir.
Ouais. C'est vrai que la partie tennis, elle est assez, comment dire, faiblement présente, on va dire, dans l'île. Il y a un chapitre vraiment qui est consacré, j'allais dire, à une partie purement tennistique et qui est plutôt une analyse de son jeu, de ses coups forts, de ses coups faibles, etc. Mais c'est vrai que c'est pas le cœur du sujet. Voilà, clairement. D'ailleurs, il y a d'excellents livres qui existent là-dessus et on n'a pas du tout prétendu rivaliser. Et aussi parce que on n'est pas des experts. Moi, j'ai beaucoup joué étant jeune, mais je ne prétends pas du tout être un. En tout cas, pas être un expert du tennis au point d'en parler dans un livre. En revanche, comme tu dis, oui, on espère que c'est une approche complémentaire, tout à fait, pour aller explorer un peu les méandres du mythe Federer. Voilà, oui, au-delà du tennis, au-delà du jeu. Ouais, tout à fait.
Tu joues encore, toi?
Ouais, je joue, mais de manière occasionnelle, voilà, avec des amis dans mon club de toujours, là, à Massy, toujours.
Ah
Mais
yes, fidèle, fidèle aux origines.
tout à fait. Mais plus de compète, plus de, voilà, juste du plaisir. Parce que voilà, ça prend du temps. Ça prend du temps, la
T'as
compétition.
essayé le paddle ou pas?
Ouais, tout à fait.
T'aimes bien?
Très chouette aussi. Très
Ouais.
chouette aussi. Ouais, j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, je me suis toujours demandé si est-ce que Federer se mettrait un jour au paddle. Je serais curieux de savoir
Très bonne
comment il
question.
jouerait, quelle serait sa tactique, est-ce qu'il jouerait avec les murs. Enfin bref, je suis sûr qu'il comprendrait tout ça très vite, mais je serais curieux de voir comment il se débrouillerait sur un terrain de paddle. Ça, à mon avis, ça serait chouette à voir.
Roger, mets-le nous en commentaire, hein. T'hésites pas à nous partager tout ça. Merci.
On veut bien faire office de sparring partner, hein, il n'y a pas de problème.
Et puis, n'hésite pas à partager aussi auprès de ta commu, hein.
Ouais,
Bon,
ah
merci,
oui.
merci Frédéric pour ton temps et à une prochaine. J'espère qu'on se rencontrera en physique,
Avec
au-delà
grand
de
plaisir.
cet échange virtuel.
Avec grand, grand plaisir. Merci encore pour l'invitation. Et voilà, toujours un plaisir de parler de Fédéra.
Trop cool. À bientôt. Ciao.
Merci, Max. À bientôt.
Salut.
Ciao.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.